Ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption.
Est-ce que vous mangez les riches?
Alors, il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc.
Vous êtes ici chez les salopards, hein? C'est admis.
On va rester groupés, ça va bien se passer.
La chronique de Maël sur Divergence. Bonjour à toutes et à tous. Israël est en train de semer le chaos au Liban, vu que visiblement la Palestine ça ne suffisait pas. Trump est en train de semer le chaos en Iran et dans le détroit d'Ormuz, vu que visiblement le Venezuela ça ne suffisait pas. Le gouvernement Macron est en train de semer le chaos dans nos droits de travailleurs durement acquis au fil de notre histoire syndicale, vu que visiblement chercher des noises aux filles qui portent le voile et défigurer les gilets jaunes ça ne suffisait pas. Mais de quoi parle-t-on depuis 15 jours? Eh bien de Jordanie Nounet qui a serré une princesse. C'est vrai qu'on en a tous quelque chose à foutre de la vie sentimentale du fils spirituel d'un subtil mais néanmoins douteux mélange entre Himmler et Hi Hi, le poulet demeuré dans Vaiana.
Hey hey!
L'idylle que personne n'attendait. Entre la Méditerranée et les reliefs silencieux, tout paraissait s'accorder dans une harmonie presque irréelle. C'est dans ce décor où chaque pierre semble chargée de mémoire qu'une scène inattendue s'est offerte au regard. Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon et de Sicile, marchant côte à côte. Leur élégance détonne parmi les promeneurs en basket et coupe-vent. Une élégance classique, un couple incroyablement atypique. D'un côté, un politique issu du peuple à l'ascension indéniable. De l'autre, une princesse issue de la plus haute noblesse.
Éblouissante, élégante, craquante.
On voit bien que c'est une princesse. Pas besoin de couronne.
Bon, je vais pas décrypter cette histoire d'amour de couillon entre deux idiots utiles parce que je m'en carre le cul complet. Néanmoins, toute cette paparazza orchestrée par Paris Match est très intéressante à analyser en termes de lèche-bottage. Et pas n'importe quelle botte, si vous voyez ce que je veux dire. Remettons un petit peu de contexte. Le magazine Paris Match appartenait il n'y a pas si longtemps au groupe Lagardère, racheté par Vincent Bolloré. Et désormais, c'est la propriété du groupe LVMH qui est lui détenu par Bernard Arnault. Le directeur de la rédaction, c'est Jérôme Béglé, un journaliste qui a bossé pour Le Figaro, Le Point et Le Journal du Dimanche. Si vous connaissez un petit peu les lignes politiques de ces médias, vous voyez où je veux en venir. Paris Match est détenu par des potes de l'extrême droite, et les articles sont choisis et validés par un sympathisant de leurs idées. Ce n'est donc pas anodin que la une du Paris Match de la semaine dernière ait été consacrée au petit Jordan et à sa zouze royale. Et cette romantisation en politique, on appelle ça la pipolisation, rendre les politiciens et les politiciennes glamour grâce à la presse people et ainsi leur faire gagner des points de sympathie auprès du lectorat. De manière générale, Paris Match est habitué de ce genre de couverture politique. La patronne des paparazzis, c'est Mimi Marchand, une femme d'affaires très, très haut placée niveau politique. C'est à elle qu'on impute la naissance de la pipolisation des politiques. Elle est très, très amie avec Nicolas Sarkozy, son cul est d'ailleurs bien mouillé dans les affaires qui tourmentent l'ancien président, mais elle est aussi très proche du couple Macron. C'est elle qui a mis en scène les paparazzades du couple entre Hanouna et Tiphaine Osière, la fille de Brigitte, mais elle est aussi derrière le scoop de la liaison entre Sarkozy et Carla Bruni, et celle d'Hollande et Julie Gayet. Bref, elle tient les politiques par les couilles, et elle n'hésite pas à se servir de ses relations haut placées pour mener la politique française à la baguette. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'encore une fois, le copinage entre presse, politique et entreprise m'évoque notre histoire européenne fasciste. Je vois pas du fascisme partout, il est partout. Historiquement parlant, l'extrême droite n'a jamais atteint le pouvoir sans le soutien de la presse et des grands groupes industriels. En Italie avec Mussolini, en Allemagne avec Hitler, au Chili avec Pinochet et aux États-Unis avec Trump. Pour chacun de ces pays, c'est toujours l'appui des riches et des entreprises qu'ils possèdent qui ont permis l'extrême droite d'atteindre le pouvoir, sans compter l'appui a posteriori des entreprises pour la mise en place des ignominies du fascisme. Ici, on n'a pas peur du name-dropping, donc petite liste non exhaustive des entreprises qui ont aidé Hitler à accéder au pouvoir et en financer, donc profiter des camps de concentration. Volkswagen, directement né d'une impulsion d'Hitler qui a exploité 20 000 travailleurs forcés, dont une majorité de prisonniers des camps de concentration. BMW, tout pareil. Renault, dont la collaboration avec les nazis faisait tellement tâche que ça a mené à la nationalisation de l'entreprise. Bayer, l'entreprise pharmaceutique qui a participé aux expérimentations du pseudo-docteur Mengele sur des déportés juifs. Allianz, qui a assuré les camps de concentration, financé l'ascension du national-socialisme et refusé d'indemniser les victimes juives de toutes les atteintes subies pendant la période nazie. La SNCF, qui a participé au transport des convois vers les camps de concentration, et puis Siemens, Hugo Boss, Chanel, Adidas, tout ça, tout ça. Et si les industriels français ont toujours déclaré depuis la fin de la guerre qu'ils se refuseraient à copiner avec l'extrême droite, eh ben faut croire que cette époque est révolue et que le vent tourne tranquillement vers l'extrême extrême est.
Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous.
Le 7 avril dernier, le MEDEF, l'organisation patronale française, s'est joyeusement attablé avec Marine Le Pen lors d'un dîner dans la très huppée brasserie Drouan à Paris. Et c'était pas pour se parler des dernières vacances à Ibiza, hein, non non non. C'était pour causer avenir, et un avenir pas si lointain, celui des présidentielles 2027. Ben oui, les riches et les patrons sentent l'argent et les intérêts commerciaux que peuvent leur apporter l'accession du Rassemblement National au pouvoir. Ils se sont déjà bien gavés sous Macron, mais ils en veulent encore plus, et c'est ce que l'extrême droite de Le Pen et Bardella leur proposent. Baisse des impôts pour les entreprises, priorité aux entreprises nationales, tout ça, ça se négocie. Et pour négocier, il y avait du beau monde. Bernard Arnault, grand pote de Bolloré, dont le fiston Antoine est le BFF de Bardella, propriétaire de Paris Match et grand soutien de Donald Trump et d'Elon Musk. Mais aussi Cyril Bolloré, le fils de Vincent Bolloré, Catherine McGregor, la directrice générale d'Engie, son confrère Patrick Pouyanné, patron de Total Energy, et puis Henri de Castries, ancien DG d'AXA, qui avait déjà bien fait parler de lui en 2022 pour avoir dîné avec Éric Zemmour lui-même.
Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors.
Alors bien sûr, le MEDEF nie tout rapprochement avec le RN. Patrick Martin, le patron du MEDEF, s'est même dit dépité de voir combien il y a un focus sur cette histoire de rapprochement avec Marine Le Pen. Eh ben nous, on est dépité de voir que les industriels complotent avec un parti raciste héritier de la Waffen-SS pour se faire des sous sur notre cul, Patrick. Bon, de toute façon, ça se saurait si les patrons étaient du côté des travailleurs et de la démocratie. Eux, ils sont du côté où il pleut le plus de thunes, c'est tout, pas besoin d'aller chercher plus loin. Et Macron, qui fait des cadeaux aux patrons et aux entreprises depuis 10 piges pendant que nous on crève la gueule ouverte et borgné par la police, eh ben il finance indirectement l'ascension de l'extrême droite. Et c'est pas le seul. Si je vous parlais de Paris Match tout à l'heure, c'était aussi pour vous expliquer à quel point les médias sont responsables et à quel point je leur en veux. Ça peut paraître un petit peu paradoxal pour une journaliste, mais le journalisme que je défends, moi, c'est celui qui combat l'extrême droite par tous les moyens, pas celui qui lui ouvre la porte en grand. Et autant vous dire que ça va être compliqué pour moi de trouver du boulot dans la presse si je veux continuer à défendre cette bannière antifasciste. Parce que si on jette un œil au paysage médiatique français, on se rend assez rapidement compte que les médias sont quasiment tous la propriété de ces mêmes grands industriels qui complotent avec les fascistes. Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Martin Bouygues, Pierre-Édouard Sterrin, Rodolphe Saadé, tous ces richoux bercés un petit peu trop près du mur possèdent à eux seuls la quasi-totalité des médias français. BFM TV, CNews, Canal, TF1, Le Parisien, Le JDD, Le Figaro, Valeurs Actuelles, que des super médias finalement qui nous régalent des histoires de cul de Bardella. Et même le service public s'y met, hein, d'ailleurs. Le 15 avril dernier, Léa Salamé recevait aux 20h Jordan Bardella pour qu'il nous raconte sa love story avec Béatrice de Montmirail. C'est vrai qu'il n'y a pas plus primordial comme invité et comme sujet, ma chère Léa.
Quand on fait de la politique au niveau où je la fais, c'est très difficile de conserver une vie privée. Vous savez que j'ai toujours été très attaché à ma vie privée. Il se trouve que depuis plusieurs mois, nous étions traqués par des paparazzis qui nous suivaient lors de nos déplacements et lors de cette visite en Corse jusqu'au pied de notre hôtel. Et donc nous avons pris la décision tous les deux de ne plus nous cacher, d'assumer ce qui relève pour nous aujourd'hui dans notre vie intime de l'évidence.
Donc vous saviez que les photographes étaient là et vous étiez d'accord pour cette séance de photos.
Nous l'avons assumé, bien sûr. Je savais qu'ils étaient, ils nous ont suivis pendant de très nombreuses semaines. Non mais madame, moi je fais de la politique pour la France, je fais de la politique pour les Français. En tout cas, je peux vous dire une chose ce soir, c'est que je suis très heureux.
Non, monsieur est très gentil, il va nous laisser tranquille, hein. Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles.
Moi, je fais de la politique pour les Français. Et B, t'étais pas spécialement obligé de nous ramener Marie-Antoinette en prétendant du trône de France, hein, cher Jordan. Purée salamé, ces questions de merde, c'est pas possible d'être aussi neuneux. Bon, après, je suis mauvaise langue, elle lui a quand même posé 2-3 questions sur ce fameux dîner avec le MEDEF.
Où est la cohérence?
C'est une lecture extrêmement marxiste que vous avez des rapports,
non,
des rapports
de
économiques.
Positionnement.
Je pense que les entreprises françaises, on est dans un pays qui a les plus grandes, les plus belles entreprises au monde, 5 millions d'entreprises françaises, sont la clé sur laquelle nous devons bâtir demain et après-demain la prospérité de la France. Nous sommes un parti politique qui a le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale, qui est donné aujourd'hui en capacité de remporter la prochaine élection présidentielle. Et il est naturel, évident, que nous dialoguions, pardonnez-moi, avec les milieux économiques, avec les petites entreprises, avec les entreprises de taille intermédiaire qui bien souvent sont des structures familiales qui ont de plus en plus de difficultés dans la transmission de leur entreprise, mais aussi avec des grands groupes qui font, pardon, qui créent des milliers d'emplois, qui font la fierté de la France, la fierté du génie français en Europe, mais aussi partout dans le monde. Et moi, je suis très fier de grands groupes comme, on pourrait citer évidemment Dassault, on pourrait citer Airbus, on pourrait citer LVMH, qui sont aussi les clés, demain et après-demain, de la souveraineté et de la prospérité de la France. Et donc, moi, je n'oppose pas les salariés aux entreprises.
Il est beau, le parti du peuple, hein. Dassault qui finance et alimente les guerres, LVMH qui paye pas ses impôts, et ben ça rend fier la France. Voilà, tout simplement. Comme Gérard Depardieu, c'est la Sainte Trinité. Dassault, LVMH et GG. Ici, on n'est pas fâché avec le bonheur. Il fut un temps où c'était la honte de voter le Front National, où c'était impensable de leur donner ne serait-ce qu'une seconde d'antenne. Et aujourd'hui, c'est ceux qui refusent de leur donner la parole qui sont traités de fachos. On marche sur la tête et on regarde ceux qui marchent sur leurs deux pieds comme s'ils avaient la peste. Comment ça me gave de me faire des articles et des vidéos du RN à longueur de temps pour préparer mes chroniques et de prononcer le mot fascisme 46 fois par jour alors qu'on avait dit plus jamais ça 60 ans avant ma naissance. Soyez curieux, restez révoltés et faites gaffe à ce que vous consommez, vous risquez de choper la peste brune.
Dans
bisous.
Cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air.
Là, je peux vous dire une chose ce soir, c'est que je suis très heureux.
Je voudrais lui dire je t'aime.